Galade 100.9.
Parlons de nutrition.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlons Nutrition. On est comme dans chaque émission avec Charline Simian. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Jusqu'à maintenant, on a parlé de comment avoir une alimentation saine dans cette émission. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des maladies liées à l'alimentation, c'est ça ?
Tout à fait. On va évoquer ensemble l'ensemble justement des pathologies que je peux rencontrer en cabinet. Alors peut-être pas l'ensemble. Je voulais vous parler des maladies essentiellement liées au poids, sachant que je peux rencontrer des gens qui vont souffrir de maladies type digestive et qui n'auront pas forcément de problématiques de poids. Je voulais resituer un petit peu les choses effectivement au niveau des problématiques de gens qui ont des soucis avec leur poids. Je voulais, dans une première partie, revenir avec vous, Mathieu, sur le surpoids et l'obésité. Le surpoids et l'obésité qui sont un fléau international, on le sait, hein, c'est une épidémie. L'épidémie a triplé, le nombre de personnes souffrant d'obésité et de surpoids a triplé à peu près depuis 1975. Donc c'est vraiment une pathologie qu'on a du mal à enrayer, malgré tous les messages qu'on va pouvoir envoyer, le fameux PNNS, le Plan National Nutrition Santé dont on a parlé la dernière fois, les messages de santé. On arrive difficilement à endiguer cette problématique d'épidémie.
Il y a un cliché comme quoi c'est une maladie américaine, on dit que c'est un fléau qui ravage l'Amérique. Je crois que c'est pas que là-bas et que c'est partout dans le monde.
Malheureusement, c'est une épidémie qui a son épicentre effectivement aux États-Unis, hein. C'est là que ça a commencé. Maintenant, on se rend bien compte aussi que chaque pays industrialisé commence à être touché. Un peu aussi par l'apparition d'une certaine boisson au cola, bien connue, mais pas que. Hein. Bien évidemment, il y a plusieurs facteurs qui mènent à l'obésité. Le surpoids et l'obésité, pardon, sont définis par l'OMS comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. Ça, c'est la définition stricte de l'Organisation mondiale de la santé. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il a fallu trouver une définition, on a donné celle-ci. Maintenant, on a un indice qui nous permet de mesurer où se situent les patients. Cet indice est l'indice de masse corporelle. Il est défini par votre poids en kilos sur votre taille au carré, la taille étant en mètres, et on va trouver cette fameuse échelle. Donc, en dessous de 20, entre 20 et 18, on peut être en peu de poids, mais sans que ce soit grave. En dessous de 18, ça commence à être compliqué, on définit la dénutrition. Entre 20 et 25, on part sur le principe de la norme, donc d'un poids normal. Au-delà de 25, et jusqu'à 30, donc entre 25 et 30, on est défini comme étant surpoids, qui n'a pas trop d'incidence sur la santé, immédiatement en tout cas. Et dès qu'on dépasse les 30 d'indice de masse corporelle, on rentre dans la maladie obésité. Entre 30 et 35, on considère qu'on est dans une obésité grade 1, obésité simple si on veut, et au-delà de 35, on rentre dans une obésité grade 2 qui va être dite morbide.
D'accord, donc qui peut entraîner d'autres maladies
Immédiatement, on a effectivement cette idée de morbidité, donc on entend bien mort hein, dans la morbidité. Effectivement, il y a ce qu'on appelle des comorbidités qui vont être associées à cet excès de poids, notamment quand on est dans l'obésité. On risque de développer, ça n'est pas une obligation, il y a un risque plus important de développer un diabète, donc un problème de sucre dans le sang. Des problèmes de cholestérol, des problèmes de triglycérides, les cholestérol et les triglycérides étant des graisses qu'on va accumuler dans les vaisseaux, c'est le problème cardiovasculaire dont on a entendu parler. On risque de boucher ses artères avec du gras. Ça peut être assez ennuyeux, ça peut vraiment entraîner un décès par arrêt cardiaque notamment. on a une tendance à se sédentariser. Plus on a de poids, plus on a de difficultés à bouger. Plus on a de difficultés à bouger, moins on bouge. C'est un espèce de cercle vicieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe notamment des professeurs d'activité physique adaptée pour ces populations qui souffrent d'obésité et qui veulent recommencer à bouger. Il faut bien s'imaginer que si on a un sac à dos de 50 kilos de trop qu'on porte en permanence, chaque mouvement peut être plus compliqué et peut même être dangereux. Un patient qui fait entre 110, 120, 150 kilos, ne serait-ce que marcher, peut devenir compliqué. Alors lui dire d'aller reprendre le sport et d'aller courir sur un tapis, c'est juste exclu, déjà parce qu'il risque de se faire extrêmement mal. Et si on se fait mal, on n'a pas envie de recommencer. Ouais. Donc véritablement des vraies comorbidités associées à cette obésité, c'est ce qui pose véritablement problème aujourd'hui, au-delà du regard que la société peut porter sur ces personnes-là, parce qu'il faut savoir que l'obésité, c'est mal vécu de façon sociétale, c'est-à-dire que les gens regardent les personnes obèses en les jugeant et en se disant que c'est juste un problème d'alimentation et qu'il ferait juste attention et que ça irait mieux, ce qui est faux en soi, parce que c'est une vraie maladie qui a un vrai déséquilibre au final. Pour revenir sur l'obésité, il y a deux sortes d'obésité, deux sortes de surpoids, deux sortes de stockage en fait des graisses. Il y a un stockage dit androïde, donc plutôt situé au niveau abdominal pour ces messieurs en général. On a un périmètre abdominal qui a une tendance à augmenter un petit peu plus, avec une graisse qui va être plutôt viscérale, donc plutôt profonde. Le problème de cette graisse viscérale, donc autour des viscères, c'est qu'elle va les empêcher de fonctionner correctement. Donc ça peut...
Des problèmes de digestion
Des problèmes de digestion, des problèmes de foie, vraiment des soucis de santé. Maintenant, on a aussi l'autre obésité, l'obésité dite gynoïde, donc plutôt féminine. Gynoïde, on entend gynécologie, donc c'est vraiment plutôt de la femme. Et là, on va avoir un stockage plutôt au niveau des fesses, des cuisses, donc une forme d'obésité qui ne va pas être la même. Il n'y a pas pour autant moins de comorbidité chez les femmes que chez les hommes. C'est juste une répartition des graisses qui va être un petit peu différente selon les messieurs ou les dames.
D'accord. Androïde et gynoïde.
Androïde pour les messieurs, gynoïde pour les dames. Je voulais revenir aussi sur les causes de ce surpoids, de cette obésité. Je rencontre régulièrement des patients au cabinet qui me disent « Oui, mais moi, de toute façon, c'est familial, on a un problème de poids de génération en génération. » Et dans cette idée de familial, les patients parfois entendent « héréditaire ».
Ouais, il y a un côté fatalité aussi, j'y peux rien, c'est comme ça.
J'y peux rien, c'est pas de ma faute. Et oui, souvent, il y a cette idée-là. Maintenant, on va faire le distinguo entre l'hérédité pure, l'hérédité qui dépend de l'ADN, donc qui serait dans les gènes. Cette hérédité, elle peut exister, elle n'existe en réalité que dans 2% des cas d'obésité, ce qui est finalement assez peu sur la population qui souffre de surpoids et d'obésité. Maintenant, le côté familial, il est assez évident. Quand on a une maman qui a été élevée par une maman qui souffrait d'obésité, souvent dans la casserole, dans la façon de cuisiner, ça se ressent. Ou dans les quantités qu'on va proposer aussi, ça peut être ça. Donc, le côté familial de l'obésité, c'est quelque chose qui est presque acté. Pour autant, on peut trouver des enfants dans une fratrie avec un qui souffre de surpoids ou d'obésité sans cause familiale. Il peut y avoir tout un tas de raisons à ce surpoids, à cette obésité. Donc on a vu l'éducation, la famille, on a vu le côté génétique. Il y a aussi la sédentarité qui joue énormément. Le fait d'être sédentaire limite les dépenses de façon très importante. Et on sait que les enfants à l'heure actuelle passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et les écrans. Donc, bougent moins et ils peuvent développer un surstockage finalement qui va mener à un surpoids ou à une obésité.
Donc, d'où l'importance de l'activité physique.
D'où l'importance de l'activité physique. Il y a aussi le défaut de balance énergétique. Cette fameuse balance énergétique, c'est le rapport entre les apports et les dépenses. Mathématiquement, on peut se dire que si j'augmente mes apports et que je réduis mes dépenses, je risque fortement d'avoir un problème de poids. C'est pas toujours aussi simple. Et en même temps, parfois, le fait d'augmenter les dépenses peut aider à réguler un problème de poids débutant.
Est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent entraîner des problèmes de surpoids et d'obésité ?
Alors, il y a des causes psychologiques, des blessures psychologiques où on va avoir besoin de cacher finalement une blessure. Et souvent, c'est sous-estimé. Le patient qui souffre d'obésité, il est sympa, il est jovial. Et du coup, parfois, si on regarde que l'enveloppe, eh bien, on peut se dire que c'est un défaut de volonté. Finalement, il a qu'à faire attention. En même temps, une patiente qui aurait souffert d'agression sexuelle, elle a peut-être juste pas envie qu'on puisse ne serait-ce que la désirer. Donc, elle va s'envelopper et elle va cacher sa douleur un petit peu là-dessous.
D'accord. Donc, on a vu les causes, on a vu les risques également du surpoids. On va peut-être faire une petite pause musicale et puis aborder d'autres...
Aborder d'autres pathologies sous un autre versant après la pause, avec plaisir.
Bon, et ben, on écoute les frérots de la Vega avec le chant des sirènes sur Calade.
Enfant des parcs, gamin des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da.
Parlons nutrition.
C'était donc les frérots de la Vega sur Calade avec le chant des sirènes. Vous êtes dans Parlons Nutrition. On était en train de parler des maladies liées à l'alimentation. On a parlé du surpoids et de l'obésité. Et maintenant, avec Charline Simian, on va aller à l'extrême opposé sur les troubles de conduite alimentaire et peut-être en particulier l'anorexie pour commencer.
Tout à fait. On est parti donc d'indices de masse corporelle. On a vu que c'était l'indice qui permettait de placer les gens sur cette échelle du poids. Et à l'autre extrémité, on a vu donc l'obésité qui était dans les extrêmes hauts. Il y a aussi les extrêmes bas qui sont notamment l'anorexie mentale. L'anorexie mentale... on a eu pensé que c'était une pathologie psychologique. Ça n'est pas que ça. C'est une pathologie qui est très grave. Et en même temps, on en guérit. Et c'est quelque chose qui est important à entendre parce que les patientes qui souffrent de cette maladie-là, parfois, ont un peu le sentiment, ainsi que leur entourage, que ça ne s'arrêtera jamais, que c'est un cercle vicieux et que dès que ça va un peu mieux, ça va un peu mieux et qu'il y a des rechutes perpétuelles. Ça nécessite un accompagnement, j'allais dire presque de tous les instants. Souvent, on cote aussi l'anorexie mentale selon l'indice de masse corporelle parce qu'en réalité, plus l'indice de masse corporelle diminue, plus la dénutrition s'installe. Et plus cette dénutrition s'installe, plus la pensée anorexique, donc plus l'anorexie gagne du terrain sur la jeune fille qui en souffre.
Concrètement, qu'est-ce que c'est du coup l'anorexie, cette pensée anorexique ?
Alors l'anorexie mentale, c'est une pathologie qui... oblige la jeune fille à ne pas manger pour tout un tas de raisons, essentiellement parce qu'à l'origine, elle se trouve trop grosse. Donc souvent, le souhait premier dans une anorexie, dans le développement d'une anorexie, c'est la perte de poids. Alors cette perte de poids, elle peut être liée à l'envie de la jeune fille de ressembler au magazine. Elle peut être aussi liée à une remarque positive ou négative d'ailleurs. Ça peut être la remarque de la grand-mère qui dit « Ah tiens, t'as pris un peu d'effet ces derniers temps, faudrait peut-être faire attention ».
Vous dites la jeune fille, c'est exclusivement féminin comme...
Alors non, ça n'est pas exclusivement féminin. Sur 10 patients qui souffriraient d'anorexie, on aurait 8 patientes féminines et 2 patients. Il faut savoir que l'anorexie chez les messieurs est plus mortelle. C'est-à-dire que les messieurs vont plus loin dans l'anorexie et meurent plus de l'anorexie que les filles. Pour autant, il y en a qui guérissent, hein, rassurez-vous. Mais effectivement, les messieurs meurent plus, même s'ils sont moins nombreux dans cette maladie, qui est une maladie qui est finalement une maladie de l'estime de soi. On était en train de l'évoquer, cette petite remarque qui n'a rien de méchant à l'origine. Hein. On est bien d'accord que la grand-mère, elle est plutôt bienveillante quand elle dit à sa petite fille « Ah, t'as pris quelques kilos, il faudrait faire peut-être attention ». La remarque, elle peut être dans l'autre sens aussi. De dire « Ah, c'est rigolo, t'as perdu quelques kilos, ça te va bien
ouais. ».
Et le « ça te va bien » peut résonner chez la jeune fille et se dire « Ah ok, ça me va bien, il faut que je perde encore du poids, ça ira encore mieux. »
Génial.
Et encore mieux, ouais. Et encore mieux. Et en réalité, on s'enfonce vraiment ouais. Petit à petit dans l'anorexie. Parfois, on met du temps à se rendre compte que la jeune fille est à sombrer dans l'anorexie parce que la jeune fille a une tendance à mettre des pulls, des choses qui vont permettre de cacher finalement cette perte de poids-là. C'est une maladie qui a une certaine gravité et qui peut avoir vraiment des problématiques type l'ostéoporose. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'anorexie, il y a une espèce d'autoconsommation. C'est-à-dire que la patiente ou le patient ne mange tellement plus que du coup, bah, l'organisme, pour survivre, va s'auto-grignoter. Et en fait, il y a vraiment, quand on parle de cette pensée anorexique, une dysfonction cérébrale, c'est-à-dire vraiment un problème dans le cerveau, parce que très souvent, les aliments les plus supprimés sont les sucres et les graisses, les sucres qui sont le carburant et les graisses qui sont composantes du cerveau. Donc le cerveau ne fonctionne plus correctement et parfois pour aller récupérer la jeune fille derrière la maladie, ça peut être très compliqué parce que cette pensée anorexique s'installe et peut être extrêmement prenante, peut prendre des proportions chez des jeunes filles qui seraient encore scolarisées par exemple, à partir de 10h30 quand on commence à sentir les odeurs de la cantine, ça peut virer à l'obsession, c'est-à-dire que c'est des jeunes filles qui n'arrivent plus à se concentrer sur leur travail parce qu'elles sont obsédées par cette alimentation qui va être obligée d'être prise parce qu'elles vont être un peu piégées.
D'accord. Ouais.
la pensée anorexique et la maladie anorexie n'est pas forcément une anorexie vomitive. C'est-à-dire que les vomissements ne sont pas une obligation chez une patiente qui souffrirait d'anorexie. Voilà. Je suis désolée, c'est pas très
gay, c'est,
on n'est mais... pas vraiment dans la gaieté dans cette émission aujourd'hui. On essaiera de traiter un sujet peut-être un peu plus léger la prochaine fois. Pour l'anorexie, on est vraiment dans un suivi qui va nécessiter un accompagnement pluridisciplinaire. Ça peut être le cas aussi dans les autres extrêmes, dans l'obésité et le surpoids, d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire pour faire ce qu'on appelle une alliance thérapeutique. Donc alliance, ça veut vraiment dire qu'on va faire une chaîne thérapeutique autour du patient et avec le patient pour l'accompagner au mieux. C'est vraiment ça l'idée.
D'accord.
C'est d'accompagner au mieux le patient dans le suivi de sa maladie.
Donc un travail de thérapie associé à un travail de diététicienne.
Tout à fait. Une diétothérapie souvent associée à une psychothérapie et à l'accompagnement aussi médical par un médecin généraliste, ouais, par exemple, voire un médecin spécialisé, endocrinologue, pourquoi pas, ou des spécialistes un peu plus des sujets. Dans le coin, il y a des centres dédiés à l'obésité, les CIO, Centres intégrés de l'obésité. Et on a aussi, à l'autre bout de la chaîne, des centres spécialisés dans la prise en charge des troubles des conduites alimentaires. Là, on a pour l'instant évoqué que l'anorexie. Il y en a d'autres qu'on va évoquer maintenant.
Notamment la boulimie, je crois.
La boulimie, tout à fait. Alors, la boulimie a une définition qui est... l'absorption dans un temps limité, alors qui peut être jusqu'à 2 heures, donc c'est un temps qui peut être long, mais limité, de quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens mangeraient dans le même temps. C'est-à-dire des quantités extrêmement importantes de nourriture sur un temps limité. C'est vraiment ce qui définit la boulimie. La boulimie est associée à une perte de contrôle. C'est-à-dire que la personne qui fait une crise de boulimie a vraiment le sentiment de ne pas pouvoir avoir le contrôle ni sur la prise alimentaire, ni sur le temps que ça va durer. Il y a vraiment finalement ce lâcher prise, mais vraiment cette perte de contrôle. Et dans la boulimie vraie, on verra une autre forme de boulimie tout à l'heure, il y a vraiment l'association de comportements compensatoires. Ces comportements compensatoires, ça va être des vomissements, ça va être des prises de laxatifs, par exemple, pour en réalité éliminer cet excès qui, au final, quand la personne revient dans son corps, quand elle reprend le contrôle, cette quantité d'aliments, elle est juste intolérable.
Donc. C'est une crise qui est de quelle origine ? C'est psychologique ?
C'est parfois psychologique, parfois... ça peut être médié par une faim, mais souvent ça ressemble plus à de la vengeance finalement. Ça peut être une remarque, une prise de bec avec le chéri. Ça peut, il y a beaucoup de choses qui peuvent déclencher une crise de boulimie. Maintenant, il faut que ce soit aussi répété. Il faut que ça soit quelque chose de répétitif. Qui n'a pas mangé un paquet de chamallows devant sa télé un soir ? Là, on n'est pas du tout dans un comportement atype de pathologie boulimie, vraiment. Cette boulimie, c'est une maladie qui est malheureusement assez répandue, malheureusement aussi assez peu diagnostiquée, parce que autant une patiente qui souffre d'anorexie, il y a un moment donné où physiquement ça se voit, une patiente qui va souffrir de boulimie a très souvent un poids faible, anormal, très peu souvent un surpoids en réalité. C'est-à-dire que comme il y a des comportements compensatoires, le poids reste stabilisé. Pour autant, la patiente, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien dans son alimentation. Cela dit, elle peut avoir des repas qui sont tout à fait équilibrés par ailleurs. C'est-à-dire que la crise est vraiment indépendante des prises alimentaires. Il n'y a pas forcément de compensation sur le repas d'après, par exemple, en disant « je vais moins manger parce que j'ai fait une crise ». On n'est pas du tout là-dessus. Il y a d'autres type de boulimie. Je voulais évoquer avec vous l'autre pan de cette fameuse boulimie. J'ai pas mal de patients qui viennent et qui me disent « je fais de la boulimie ». Et en réalité, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'hyperphagie boulimie. C'est cette fameuse crise, justement. Alors, on a cette notion de perte de contrôle, où on n'arrive pas à s'arrêter, où on n'arrive pas à se raisonner. Pour souffrir véritablement de cette hyperphagie boulimie, il faut quand même cette notion de chronicité. Il faut que ce soit chronique. Il faut que ça ait duré au moins une crise par semaine pendant plus de 3 mois. C'est pas la petite crise qui arrive occasionnellement. C'est quand même quelque chose qui se régularise. Dans l'hyperphagie boulimie, par rapport à la boulimie qu'on vient d'évoquer, il n'y a pas ces phénomènes de compensation. Donc, la patiente ou le patient peut prendre du poids, effectivement. Il se peut aussi que la patiente ou le patient corrige ses repas ensuite et ait un poids normal. Il n'y a pas forcément d'obésité associée à une hyperphagie boulimie.
D'accord. Et quels sont les risques liés du coup à ces deux types de boulimie? C'est les mêmes ou c'est...
Alors, ce n'est pas les mêmes. Les risques de la boulimie vraie sont presque les mêmes que les risques liés à l'anorexie. Il y a le fait d'une perte de potassium notamment due au vomissement. Donc souvent, il y a un état dentaire qui n'est pas terrible parce que l'acide qui remonte de l'estomac peut vraiment abîmer les dents. Le problème du manque de potassium peut entraîner des arrêts cardiaques spontanés par manque de potassium. C'est valable chez la patiente qui souffre de boulimie et chez la patiente qui souffre d'anorexie. Et puis une estime de soi qui est très, très souvent très basse parce que on ne doit pas se comporter comme ça.
Ouais.
Sauf que on ne doit pas et en même temps on le fait et on perd le contrôle. C'est véritablement ça. Dans l'hyperphagie, le risque qui va plus être lié, si on est en surpoids ou en obésité, aux problématiques qui sont liées au surpoids et à l'obésité. On a parlé du cholestérol, on a parlé du diabète et de ces choses-là. Il n'y a pas les comportements compensatoires, donc il n'y a pas les risques liés au vomissement. Il y a moins de problèmes au niveau dentaire, notamment. Il va y avoir ce moins de risques, entre guillemets, sur ces crises d'hyperphagie boulimie.
D'accord. On a vu il nous reste plus beaucoup de temps. On a vu les maladies les plus répandues, surpoids, obésité, anorexie, boulimie, c'est celle qu'on entend le plus souvent.
Tout à fait.
J'imagine qu'il y a plein d'autres cas qui peuvent exister, plus particuliers peut-être.
Il existe des troubles des conduites alimentaires dont on n'entend pas parler parce que assez peu répandu effectivement. Alors je vais vous citer des termes un peu techniques. C'est PICA, notamment, j'ai plus en tête ce que ça veut dire exactement. Le principe, c'est de manger des choses qui ne sont pas comestibles. Donc, ça va être de la terre, ça va être du plastique, ça va être des choses qui, par définition, sont non nutritionnelles. Et une autre spécificité, où là, il faut une spécificité physique, qui s'appelle le méricisme. Le méricisme, c'est en fait une rumination, c'est-à-dire que les gens vont manger et refaire remonter leur bol alimentaire dans la bouche et le remâcher assez inlassablement pendant des heures et des heures et des heures.
D'accord. Ce que je retiens, c'est que le lien, enfin le point commun entre toutes ces maladies, c'est une forme de mal-être qui est soit la cause, soit la conséquence.
Exactement. Souvent, pour pas dire dans 98-99% des cas, le surpoids, l'obésité ou à l'autre bout, les troubles des conduites alimentaires se développent chez des patients, soit qui ont eu un accident de vie. C'est pas forcément un gros accident. On parlait tout à l'heure de problèmes d'ordre d'attouchement sexuel ou de choses comme ça. C'est pas forcément aussi violent que ça. Ça peut être une simple remarque, ça peut être ça qui va blesser la personne au point qu'elle trouve des formes définitives un petit peu d'action au niveau de l'alimentation. Ça peut être un mal-être. C'est très souvent un mal-être et c'est aussi pour ça qu'il est important pour ces patients-là d'avoir un suivi pluridisciplinaire parce que la diététicienne seule souvent n'arrive pas à régler le problème parce que le problème est multifactoriel. Il n'y a pas que le problème d'apport ou de non-apport alimentaire qui rentre en ligne de compte.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut l'intervention, enfin l'aspect psychologique à suivre aussi. Et puis peut-être il y a l'aspect sportif dans certains cas qui peut aussi rentrer...
Qui peut rentrer en ligne de compte, effectivement.
Merci Charline Simiran pour toutes ces informations sur les maladies, les dérives alimentaires, c'est le terme qu'on utilise.
Tout à fait.
C'est la fin de cette émission Parlons Nutrition, on se retrouvera dans 2 semaines pour une nouvelle émission et puis on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée, à bientôt.
Galade.
Parlons nutrition.